Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Un homme de paix est mort. Le père jésuite néerlandais Frans van der Lugt a été exécuté à Homs, dans le centre de la Syrie, où il était installé depuis des décennies. Les jésuites expriment leur participation dans la prière. Le Vatican lance un appel pressant aux parties en conflit. Le Rwanda se souvient, 20 ans après, du plus grand génocide de l'histoire moderne en Afrique. Plusieurs voix se sont élevées pour rappeler le devoir de mémoire. Mais sur place, la réconciliation reste difficile. Les rescapés portent encore les séquelles physiques et psychologiques des atrocités. Le mariage cristallise bien des passions et des tensions en France. Il sera au cœur de l'assemblée plénière des évêques qui s'ouvre ce mardi. Et puis au Vatican, le pape François a approuvé une proposition pour le maintien de l'IOR. Il réaffirme l'importance de sa mission pour le bien de l'Église catholique. Il œuvrait pour la paix, la réconciliation et la justice en Syrie. Un jésuite néerlandais a été tué ce lundi matin à Homs. Vers 8h30, le père Frans van der Lugt a été exécuté de 2 balles dans la tête devant la résidence des jésuites. Âgé de 75 ans, le père van der Lugt vivait à Homs depuis 1966. Il avait choisi de rester dans la vieille ville assiégée et bombardée depuis 2 ans par les forces du régime de Bachar el-Assad. Il disait récemment à l'AFP que le peuple syrien lui avait tant donné, tant de gentillesse, tant d'inspiration. Maintenant qu'il souffre, ajoutait-il, je dois partager sa peine et ses difficultés. Nous avons joint un autre jésuite de Homs, le père Ziad Hilal, l'écouter.
En fait, moi-même, j'ai reçu un appel ce matin de jeune homme qui est là-bas, dans notre résidence. Il a dit qu'il y a un homme masqué qui est venu. Ce matin tôt, il a demandé de voir le père Frans et parler tête à tête à lui. Donc, ils sont allés dans le jardin et tout à coup, il l'a abattu par une balle directement dans la tête et il a pris la fuite.
Donc, ça semble être un acte prémédité.
Oui.
Père, vous étiez un proche, un ami du père Frans. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui?
C'est une drame. Je suis vraiment désolé pour... Parce qu'un homme de paix comme le père Frans, ça fait 3 ans qu'il n'a jamais attaqué personne, ni verbalement, ni d'autre chose. Il a toujours parlé de la paix et de la réconciliation. Il a souhaité le bon futur pour la Syrie, pour les Syriens. Et à la fin, c'était une drame de le trouver abattu de cette manière. C'est vraiment désolé. Mais quand même, moi, je peux dire que le père Frans a toujours voulu être avec ses proches. C'est le bon pasteur qui n'a pas voulu quitter vraiment les paroissiens là-bas, aux vieilles villes. Il a donné sa vie, non seulement pour les chrétiens qui sont là, mais aussi pour les musulmans, pour tout le monde, pour les Syriens. C'est un bon exemple aussi dans sa manière de résister malgré ce qu'ils ont vécu. Ça fait 2 ans à peu près qu'ils étaient assiégés dans les vieilles villes et il n'a jamais parler de choses négatives, toujours il était souriant et il rit au téléphone, il nous demande nous comment nous allons. Tout ça, c'est un bon exemple pour moi, pour les jésuites ici en Syrie et aussi pour les Syriens qui voulaient que la paix règne dans ce pays.
Le père jésuite Ziad Hilal, joint en Syrie par Manuela à Fidji. Informé de la mort du père van der Lugt, le directeur du bureau de presse du Saint-Siège a rendu hommage à un homme de paix qui a fait preuve d'un grand courage en restant fidèle au peuple syrien dans une situation extrêmement dangereuse et difficile, un peuple auquel il avait consacré sa vie et son assistance spirituelle. Là où le peuple meurt, affirme le père Federico Lombardi, lui-même jésuite, ses pasteurs fidèles meurent aussi. En ce moment de douleur, les jésuites expriment leur reconnaissance et leur fierté d'avoir eu un confrère aussi proche des plus souffrants dans le témoignage de l'amour de Jésus jusqu'à la fin. Un autre jésuite, le père Paolo Dall'Oglio, symbole du dialogue entre chrétiens et musulmans, est porté disparu en Syrie depuis 8 mois, prenant fait et cause pour l'opposition démocratique dont il soutenait les revendications à la liberté. Ce prêtre italien a été enlevé près de Raqqa le 30 juillet alors qu'il était entré clandestinement en Syrie. Pour sa part, la Congrégation Vaticane pour les Églises Orientales a exprimé sa douleur après la mort du père Van der Lugt. Dans un communiqué, elle lance un appel aux consciences des responsables des parties en conflit et de la communauté internationale pour que cesse cet affrontement qui a causé tant de larmes, brisé d'innombrables victimes innocentes et engendré un flot ininterrompu de réfugiés. Je vous propose à présent de réécouter la voix du père Van der Lugt. Il s'agit d'une déclaration publiée sur le site internet de la province de France des Jésuites.
À cause des circonstances, la plupart des chrétiens ont quitté leur maison et sont partis ailleurs. Chaque dimanche, nous célébrons l'Eucharistie ensemble dans notre église ici. Et chaque mercredi, les chrétiens viennent ici pour prendre ensemble le petit déjeuner. Nous ne savons pas comment la situation va se dérouler. Mais nous savons que la Syrie souffre et que nous souffrons avec l'espoir d'assister à des douleurs d'enfantement et à la possibilité d'une nouvelle naissance.
Le père Franz van der Lugt, jésuite néerlandais, abattu ce lundi matin à Homs, en Syrie. Dans l'après-midi de ce lundi, le pape François a reçu en audience au Vatican le roi Abdallah de Jordanie. Ce dernier entamait une tournée qui doit le conduire également en Autriche mardi et à Moscou mercredi. Selon un communiqué publié par le Palais à Amman, le souverain compte discuter avec Vladimir Poutine des développements au Moyen-Orient et particulièrement de la crise syrienne qui pèse lourdement sur les infrastructures et les finances de la Jordanie en dépit des aides internationales. Le Saint-Père qui avait déjà reçu le 29 août dernier, le roi de Jordanie, accompagné de son épouse, la reine Rania, est lui-même attendu en Jordanie le 24 mai. Selon le jeune directeur de Caritas Jordanie, dont les propos sont rapportés par le Salvatore Romano, la population jordanienne attend que le pape François la réconforte. Selon Wael Suleiman, les problèmes sont nombreux, les gens n'ont plus d'espoir, les chrétiens surtout, qui ne représentent que 3% de la population. La Caritas est présente sur tout le territoire avec des dizaines de centres et des centaines de collaborateurs, mais elle n'arrive plus à faire face aux besoins. La Jordanie accueille plus de 500 000 réfugiés syriens qui sont venus s'ajouter aux 500 000 réfugiés irakiens, aux 900 000 égyptiens et aux 2,5 millions de palestiniens. En tout, plus de 5 millions d'étrangers en difficulté qui représentent un poids désormais insupportable pour la Jordanie. Le pays, affirme Wael Suleiman, est de plus en plus fatigué. De plus, ajoute-t-il avec tristesse, parmi les réfugiés qui ont connu l'horreur, beaucoup ne croient plus en Dieu. La Jordanie n'est pas en guerre, mais tout autour d'elle s'est effondré et la population est à bout. C'est l'une des pages les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Elle a secoué la conscience mondiale. Entre avril et juillet 1994, quelques 800 000 personnes, essentiellement issues de la minorité Tutsi, ont été massacrées au Rwanda, souvent à la machette et au gourdin. Des Hutus modérés, refusant de se joindre aux tueries ou soupçonnés de liens avec les Tutsis, périrent également. La communauté internationale était restée inerte. Les Nations Unies s'étaient montrées impuissantes. Pendant 100 jours, le sang a été versé. 20 ans après, les larmes coulent encore, a relevé le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. En présence de 8 chefs d'État africains, de nombreuses délégations étrangères et de quelques 30 000 spectateurs bouleversés, Kigali a lancé ce lundi des commémorations, ternies par de nouvelles tensions avec la France exclue des cérémonies. Au mémorial du génocide, la flamme du deuil brûlera pendant 100 jours. Les traumatismes du génocide, bien qu'enfouis, restent présents. Il faudra encore des années avant que la réconciliation entre bourreaux et victimes qui se côtoient parfois quotidiennement dans les villages soit effective. Écoutez le témoignage du journaliste Grégoire Duru, auteur de « Par-delà le génocide, 17 récits contre l'effacement de l'histoire au Rwanda ».
Vous avez d'une part ce projet de réconciliation, c'est important qu'il existe, c'est important qu'il soit là comme un modèle pour la population, mais sur le terrain, comment se vit cette réconciliation, c'est quelque chose de très abstrait. Les Rwandais, quand vous leur parlez et qu'ils se sentent en confiance pour vous parler, parce qu'il faut savoir qu'au Rwanda, on ne dit pas n'importe quoi en public, il y a quand même un régime autoritaire qui contrôle toute information publique, les Rwandais vous disent c'est une réconciliation administrative, une réconciliation de l'État, une réconciliation qui nous est imposée d'en haut. Il y a une quoi cohabitation. Le pays vit en paix, je veux dire, il y a un système de la vie quotidienne qui a repris. Les Rwandais sont forcés d'habiter ensemble. Mais par contre, au niveau de la réconciliation, si on entend par cette notion l'idée de se faire confiance, de s'accorder un pardon, l'idée de croire en un projet commun, je crois qu'on est très très loin d'une réconciliation aujourd'hui au Rwanda.
Dans le génocide, la majorité des victimes est Tutsi, mais il y a également des Hutus. Est-ce que l'idée de votre livre, c'était de donner la parole à ces victimes un peu oubliées?
Oui, tout à fait. L'histoire récitée, l'histoire commémorée au Rwanda est celle du génocide, à savoir de bourreaux Hutus qui ont pourchassé avec une violence inouïe et une méchanceté monstrueuse, une haine viscérale, donc cette population Tutsi. C'est le génocide dont on parle et c'est très important de le commémorer aujourd'hui. Mais voilà, on oublie et le gouvernement Rwanda n'a aucun intérêt à bien sûr rappeler que de son propre côté, à savoir quand il était encore cette rébellion Tutsi qui attaquait depuis l'Ouganda, entre 1990 et 2000, vous avez toute une série de crimes qui, des rapports l'attestent et de nombreux témoignages aussi l'attestent, y compris de l'intérieur de cette rébellion d'ailleurs. Vous avez cette rébellion qui donc a commis des crimes de masse qui, selon une juridiction qui serait encore à être mise en place, pourrait être qualifiée de crimes de guerre, si pas crimes contre l'humanité. Et ces Hutus, de l'intérieur du pays, ceux qui sont au Rwanda, n'ont aucune chance d'exprimer en fait leur souffrance, d'exprimer la perte de leurs proches et n'ont pas de mémoriaux, pas de tombes. C'est une histoire qui est complètement divisée en deux et la mémoire ne joue que dans un seul sens. La mémoire n'est autorisée que dans un seul sens, celle des victimes du génocide des Tutsis. Il était donc en fait très important de rappeler à tout le monde, à l'opinion publique, qu'il y a aussi des Hutus en masse qui ont souffert de ces violences à l'époque.
Le journaliste Grégoire Duru, interrogé par Jean-Baptiste Quecagne. Dimanche, le pape François a offert son soutien aux efforts de réconciliation et de reconstruction au Rwanda. Il a exprimé au peuple rwandais sa proximité paternelle. « N'ayez pas peur », a-t-il dit, « sur le rocher de l'Évangile, construisez votre société dans l'amour et la concorde, car ce n'est que de cette manière que l'on génère une paix durable. » Le pape François a encouragé ce lundi le pardon, la paix et le dialogue en Tanzanie, dans un contexte marqué par l'intolérance et parfois par la violence et la persécution. Le Saint-Père recevait à la mi-journée les évêques tanzaniens en visite ad limina, des évêques qui avaient dénoncé il y a quelques mois les actes inhumains et honteux subis par les chrétiens. Dans un communiqué publié à la suite d'une attaque contre une église d'Arusha, l'épiscopat avait accusé les autorités d'inertie face aux menaces adressées à l'église et à ses membres. Des menaces provenant de groupes extrémistes musulmans. Le compte-rendu du discours du pape avec Hélène Destombes.
Le pape François encourage les évêques tanzaniens à rester unis et à collaborer avec le gouvernement et les institutions civiles afin que soient trouvés les moyens d'instaurer des relations sociales justes et pacifiques. Il demande que les fidèles de toutes les religions puissent pratiquer leur foi en toute liberté, car il s'agit, dit-il, d'un droit humain fondamental qui renforce la société. Quant à l'Église catholique, le souverain pontife l'exhorte à garder un esprit missionnaire et à témoigner du Christ dans la société tanzanienne. Il salue son action auprès des pauvres, des malades du sida, ses efforts pour éduquer à la chasteté et à une sexualité responsable. Mais l'Église de Tanzanie doit faire un effort en matière de formation. Pour bien accomplir sa mission, elle doit pouvoir compter sur des prêtres saints, cultivés et zélés, d'où la nécessité de leur assurer une formation humaine, spirituelle, intellectuelle et pastorale adéquate. Les catéchistes laïcs, qui jouent eux aussi un rôle essentiel, ont besoin de connaître en profondeur la doctrine de l'Église pour relever les défis que représentent la superstition, l'agressivité des sectes et la montée de la sécularisation. Enfin, le pape François insiste sur l'urgence de développer une pastorale de la famille plus efficace, capable de promouvoir la fidélité conjugale, la monogamie, la pureté, la prière et la solidarité.
Certains ont réclamé la fermeture pure et simple, mais le pape François en a décidé autrement. L'IOR, Institut pour les œuvres de religion, ne sera pas supprimé. Cet institut, souvent présenté comme la banque du Vatican, continuera de fournir des services financiers spécialisés à l'Église catholique dans le monde entier et s'insérera dans les nouvelles structures financières du Saint-Siège. Tout en faisant état, sans autre précision, d'un projet de restructuration à venir, le bureau de presse du Saint-Siège indique clairement que l'IOR poursuivra de toute manière ses activités. Antonino Gallofaro.
En d'autres termes, l'Institut pour les œuvres de religion continuera d'exister. La Banque du Vatican poursuivra donc ses activités, servir avec attention et fournir des services financiers spécialisés à l'Église catholique dans le monde entier, selon les termes utilisés au Vatican, assister aussi le pape dans sa mission de pasteur universel. Le président du conseil de surveillance de Lior, Ernst von Freiberg, et son équipe devront s'assurer que l'Institut puisse accomplir sa mission en s'intégrant aux nouvelles structures financières du Saint-Siège et de l'État de la Cité du Vatican. Toujours dans la volonté d'améliorer la coordination et le contrôle des questions économiques et financières du Vatican, rendre plus transparentes ces institutions, le pape François avait en effet institué en février dernier un secrétariat pour l'économie. C'est d'ailleurs le préfet de cette nouvelle structure, le cardinal Georges Pell, qui a présenté à François la proposition approuvée ce matin, une proposition sur le futur de la banque développée par plusieurs commissions, mais le Vatican n'a pas précisé ce matin le contenu de cette recommandation. Selon le site d'information Vatican Insider, Lior s'est dit satisfait de la reconnaissance de son travail de ces 12 derniers mois, mais surtout de la reconnaissance même de sa mission.
Le comité d'organisation des JMJ de Rio de Janeiro a été reçu ce lundi matin au Vatican. L'occasion pour le pape François d'évoquer avec émotion son voyage inoubliable au Brésil il y a 9 mois. L'enthousiasme chaleureux et contagieux de la population locale a permis, a-t-il dit, à des millions de personnes de se laisser toucher par l'amour de Dieu. Le Saint-Père a ajouté que les habitants de Rio étaient des voleurs, puisqu'ils avaient volé son cœur. Le pape François a invité la délégation à regarder maintenant vers l'avenir avec l'assurance que Dieu multiplie toujours nos efforts. L'Assemblée plénière des évêques de France s'ouvre ce mardi à Lourdes. Les travaux porteront sur plusieurs sujets internes à l'Église, comme la répartition des séminaires sur le territoire français, ou des thèmes plus larges touchant toute la société, comme le phénomène social de l'avortement, qui a fait l'objet d'une étude de l'épiscopat sous l'angle de l'éducation sexuelle et affective et de la prévention. Autre sujet majeur, dans la perspective du synode qui se tiendra à Rome en octobre, les évêques travailleront sur le thème de la préparation au mariage. Mais le président de la conférence épiscopale, Mgr Georges Pontier, estime que les débats sur l'accès à la communion des divorcés remariés ne doivent pas éclipser l'affirmation du mariage chrétien comme chemin de sainteté et de joie.
C'est un problème de société qui est très marquant aujourd'hui dans nos pays occidentaux et en France en particulier. Mais il ne faudrait pas que la question, par exemple, des divorcés remariés nous fasse oublier le message vécu de tant de couples qui vivent leur mariage dans sa beauté et qui en sont heureux. Et pour nous, le souci d'une parole positive sur le mariage nous paraît très très importante. Et cette parole positive, elle est donnée par ces couples, par ces familles chrétiennes qui témoignent du bonheur qu'il y a de s'inscrire dans la durée, d'accueillir leur vie, d'éduquer, de rester fidèles, voilà, comme étant un chemin de bonheur qui unifie l'existence, qui unifie les personnes, et qui est tout à fait ce que Dieu a désiré pour nous. Et ce message positif, voilà, c'est ça qui nous semble le plus important à redire aujourd'hui, et non pas simplement nous arrêter sur cette question certes difficile, qui peut-être focalise le regard et entretient des rêves de solutions et qui peut-être n'arriveront pas telles que les gens les souhaiteraient. Ça ne nous fait pas oublier ce regard de pasteur, qui accompagne aussi ceux qui traversent des difficultés, bien entendu. Mais nous ne voudrions pas qu'aujourd'hui cela occupe tout le spectre et qu'on n'oublie pas cette riche vie des couples chrétiens.
Est-ce que l'expérience menée dans les diocèses de France sur ces questions de pastorale familiale intéresse l'Église au-delà de nos frontières, dans les autres pays européens ? Est-ce que les évêques de France sont reconnus comme ayant une sorte d'expertise en la matière ?
On sent que, s'agissant de l'Europe, il y a une certaine unité de point de vue de l'Europe occidentale par rapport à l'Europe orientale. Après, je pense qu'il y a, dans l'expertise que peut avoir la France comme d'autres pays, je pense qu'il y a tous ces mouvements de soutien aux couples qui sont assez nombreux à travers soit les créations, les propositions des communautés nouvelles, soit à travers les mouvements anciens comme les équipes Notre-Dame ou bien comme CVX, des mouvements très riches qui accompagnent justement la vie des couples chrétiens. Et ça, c'est quelque chose qui nous paraît écouté, de fait, et qui nous paraît très très important.
Mgr Georges Pontier, archevêque de Marseille et président de la Conférence des évêques de France, interrogé par Cyprien Viette. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi, mais je vous invite à nous retrouver également sur internet radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican en français.